Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Aujourd'hui, on va parler de sacs de poudre blanche, de réunions secrètes, de gros profits illicites et de repentis de la mafia. Non, vous n'êtes pas dans Narcos. Oui, il est bien question de cartels. Vous connaissez sans doute de nom les cartels de la drogue, en particulier celui de Medellín, au sommet de sa gloire dans les années 80 grâce à Pablo Escobar. Un cartel, en deux mots, c'est un groupe de producteurs qui s'entendent pour se partager le marché, se mettre d'accord sur le territoire de chacun, les volumes produits et distribués, et surtout sur le prix. À quoi sert cette organisation ? À supprimer la concurrence, et donc à faire en sorte que tout le monde génère des profits. Sans le cartel, les producteurs se font concurrence. Ils tentent de gagner des parts de marché, soit en pratiquant des prix plus bas, soit en vendant un produit de meilleure qualité, soit en l'éliminant. Tout simplement. Eh oui, la concurrence dans le trafic de drogue, ça se règle à balles réelles. C'est là que s'arrête la comparaison avec les cartels d'entreprise. On ne risque pas sa vie quand on en sort. En revanche, on risque des années de prison et des millions, voire des centaines de millions d'euros d'amende quand on y participe. Aujourd'hui, je vous raconte en détail comment on fait pour lutter contre la formation de cartels économiques. Tout ça en prenant comme exemple l'affaire du cartel de la farine. Je vous avais bien dit qu'on parlerait de poudre blanche. Mais avant de vous raconter cette histoire, commençons par définir ce qu'est un cartel en économie réelle. Pour en savoir plus, j'ai téléphoné à Mathieu Relange, qui travaille à l'autorité de la concurrence, après avoir été avocat dans ce domaine à Bruxelles pendant 10 ans. Mathieu tient au passage à préciser que ses réponses à mes questions n'engagent que lui et ne sont pas au nom de son employeur.
Le mot cartel, on va avoir tendance à l'utiliser pour désigner toutes les pratiques qui ne font pas l'objet d'accords officiels, c'est-à-dire tous les objets, toutes les pratiques secrètes d'entente entre entreprises. À partir de cette définition, on va avoir des cartels qui vont être portés à la fois sur les prix, les volumes, ça peut être aussi des partages de marché, ça peut être des choses beaucoup plus larges qui, en fin de compte, conduisent à ne pas jouer le jeu de la concurrence et avoir un comportement qui est préjudiciable pour le consommateur. Et on va y inclure, par exemple, également des limitations en termes de production, mais également des limitations en termes d'innovation technologique, par exemple.
Un cartel, c'est donc une entente secrète entre des concurrents qui a pour but de figer la concurrence et de faire monter les prix. C'est interdit car cela n'apporte aucun avantage positif aux consommateurs. Mais en pratique, comment un cartel se met en place ? Comment, par exemple, les fabricants de farine français et allemands ont réussi à générer des millions d'euros de bénéfices sur le dos des consommateurs ? Et enfin, comment se sont-ils fait prendre ?
Comment on fait pour démanteler un cartel ?
En 2012, France Farine, l'entreprise qui commercialise la marque Francine, ainsi que plusieurs autres entreprises françaises et allemandes, ont écopé d'une amende de 242 millions d'euros au total.
Après le cartel de l'endive, on en a parlé ensemble, Emmanuel, bonsoir. On s'intéresse ce soir au cartel de la farine, sanctionné par l'autorité de la concurrence. On finit par se demander comment des secteurs comme ça ont pu échapper encore à la vigilance.
Ces entreprises s'étaient réparties le marché français, et elles en avaient profité pour s'entendre sur les prix. Des prix particulièrement élevés. Élevé par rapport à ce que les consommateurs auraient payé dans une situation de libre concurrence. Par la suite, les entreprises en question ont fait appel et vu le montant de leurs amendes réduit. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'une d'entre elles, Axian, avait reçu une amende de 44 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 167 millions d'euros. La cour d'appel a fini par diviser par 3 le montant des amendes initialement infligées par l'autorité de la concurrence en estimant qu'elles étaient disproportionnées. Essayons dans un premier temps de comprendre pourquoi ces entreprises de farine ont décidé de former cette alliance secrète. Pour qu'un marché soit fertile au cartel, il lui faut 2 conditions. Première condition, peu d'entreprises qui, ensemble, détiennent une grosse part du marché. C'est ce qu'on appelle en économie un oligopole. Si votre entreprise et ses 2 concurrents directs totalisent 90% du marché, eh bien le jour où vous vous asseyez autour d'une table pour discuter des prix et des quantités, vous aurez un impact significatif sur le marché. À l'inverse, si vous êtes au milieu de 17 concurrents qui ont chacun une petite part du gâteau, c'est bien plus compliqué. Deuxième condition, il faut que les consommateurs n'aient pas vraiment le choix. Pour fabriquer du pain, une pâte à tarte ou un gâteau au chocolat, il vous faut de la farine. Et si vous la remplacez par un autre ingrédient, bah ça risque de ne pas bien fonctionner. Donc, en faisant vos courses au supermarché, vous acceptez d'acheter un paquet de farine à 1,50€ plutôt qu'à 1,20€. On dit que la demande est faiblement élastique par rapport au prix. Une hausse importante du prix entraîne une faible diminution des ventes. Pour cette raison, il est nettement plus facile de faire des cartels pour les biens intermédiaires que pour les biens de consommation finale.
Mais la plupart du temps, les cartels sont quand même... Les cartels les plus importants ont été sur des produits qui ne sont pas forcément des produits de consommation courante. Ça va être des produits... Parce que les produits de consommation courante, ce sont souvent des produits qui sont différenciés et pour lesquels on a plus de difficultés à aligner une politique de prix. Pour ce qui est des produits, on va dire les produits des matières premières industrielles, par exemple, c'est quelque chose de totalement différent, puisque le prix va être vraiment du prix à la tonne. Les produits sont totalement standardisés, et ce sont exactement les mêmes, ils sont parfaitement substituables. Et par conséquent, il est plus facile pour les entreprises d'organiser un cartel. Donc, c'est ça qui explique que la plupart des cartels sont dans la chimie, les matériaux de construction ou ce genre de choses.
Mais en réalité, c'est rarement une entreprise entière qui décide de participer à un cartel.
En termes pratiques, il faudrait voir qui, au sein des entreprises, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans la pratique elle-même. Très souvent, on va avoir des cartels qui ne sont pas organisés du tout par la direction d'entreprise, mais elles vont être organisées par le responsable commercial, qui, lui, se retrouve directement en concurrence avec son collègue et potentiellement ancien collègue dans l'entreprise qui est en face, et pour lequel il est beaucoup plus simple d'appeler son ancien collègue pour lui demander d'augmenter peut-être son prix la semaine prochaine que de jouer librement le jeu de la concurrence.
Si votre rémunération en tant que responsable commercial est fonction du chiffre d'affaires de votre entreprise, eh bien, il y a des chances que vous soyez incité à vous entendre avec vos concurrents. Mais alors, il va falloir prendre bien soin de ne pas vous réunir à 12 reprises et de ne pas échanger des mails intitulés « Accord sur l'augmentation des prix ». Et dans ce domaine, les responsables d'un cartel peuvent faire preuve d'une imagination débordante, comme l'illustre un autre cas raconté par Mathieu Relange.
Alors, ce qui est extraordinaire dans le cartel des opérateurs logistiques du fret aérien, c'est-à-dire... Deutsche Post, UBS et d'autres acteurs de ce genre, c'est que les commerciaux en question se retrouvaient à intervalles réguliers dans un pub, dans un village anglais. Et la justification de ces rencontres était toujours celle d'un club de jardinage. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place un faux club de jardinage et ils continuaient leurs échanges par email sous couvert de ce club de jardinage. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une adresse Yahoo dédiée à ce club, dans lequel ils parlaient de tout sauf de leurs produits, des produits qu'ils vendaient réellement, mais ils allaient parler d'asperges et de labourage du potager. Et si je me souviens bien, je crois que c'était faire pousser les asperges signifiait en fait augmenter la surprime qu'ils faisaient payer à leurs clients, par exemple à la période de Noël.
En mars 2015, l'autorité de la concurrence a démantelé le cartel des produits laitiers.
Et cette condamnation des producteurs de yaourts pour entente sur les prix.
Alors cette entente a été fixée lors de réunions secrètes. Les participants se contactaient avec des téléphones portables sous des noms d'emprunt. Les rencontres avaient lieu à l'extérieur, dans un café parisien notamment, le chien qui fume.
Mais alors, comment peut-on lutter contre ces ententes alors même qu'elles sont secrètes ? Une enquête peut démarrer par une fuite, l'intuition d'un enquêteur, des hausses de prix douteuses.
Il y a la possibilité pour les autorités de la concurrence d'opérer des opérations de visites et saisies dans les entreprises en question ou même au domicile des chefs d'entreprise afin de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas une pratique secrète derrière un certain nombre de comportements de marché. Il faut bien reconnaître, dans l'absolu, d'ailleurs, les opérations de visite et saisie d'autorité de la concurrence se font accompagnées d'un officier de police judiciaire. Il faut bien reconnaître que c'est sans doute beaucoup moins risqué de faire une opération de visite et saisie au siège d'une entreprise en France que de faire la moindre incursion, la moindre enquête auprès de cartels de la drogue. Mais on va retrouver à peu près les mêmes, un certain nombre de pratiques similaires. En termes de détection, j'ai parlé des visites et saisies, mais parfois, on va utiliser des écoutes téléphoniques. On peut utiliser au moins une forme de traçage d'un certain nombre d'individus. Tout ça, théoriquement, est possible. En Europe, c'est très peu pratiqué. Aux États-Unis, par contre, ça existe de façon beaucoup plus poussée, où finalement, au niveau fédéral, l'autorité qui conduit ces enquêtes, c'est le FBI, tout simplement, avec le même type de prérogative qu'elle l'aurait pour d'autres types d'infractions criminelles.
En France, c'est l'autorité de la concurrence qui s'en charge, avec l'aide de la police. Et lorsque les cartels concernent plusieurs États membres, c'est la Commission européenne qui prend le relais. Tout ce travail d'enquête prend beaucoup de temps, de ressources financières, et malgré tout, ce n'est pas toujours suffisant pour arriver à une condamnation. Alors, les autorités ont inventé un instrument génial, le programme de clémence. Vous voyez ce que c'est qu'un mafieux repenti? Le genre de gars que l'on voit dans une salle d'interrogatoire. Il commence à comprendre qu'il a intérêt à négocier avec les enquêteurs face à lui, et il balance ses petits camarades en échange de l'immunité. Une nouvelle vie dans un bled du Kansas, sous un faux nom, avec un job pas très rémunérateur, pendant que le parrain de la mafia finit sous les verrous. Dans le cas du cartel de la farine, ce type-là s'appelle Verhan, une entreprise allemande qui a contacté l'autorité de la concurrence pour dénoncer les autres membres du cartel, et s'en est tiré indemne. 0 € d'amende pour Verhan. Là où la procédure de clémence est intelligente, c'est qu'elle bouleverse complètement les relations des membres d'un cartel. Elle les encourage à ne pas se faire confiance. Si vous craignez que l'entente ne soit pas très solide, il vaut mieux que vous dénonciez les autres. Et d'ailleurs, il vaut mieux être le premier à le faire, sinon vous serez condamné. C'est le genre de raisonnement que l'on trouve en théorie des jeux. L'un des exemples les plus connus, c'est celui du dilemme du prisonnier. Si la police arrête 2 personnes soupçonnées de braquage, il vaut mieux les interroger séparément pour que chacune soit incitée à trahir l'autre. Ici, c'est un peu différent. Tant que personne n'est arrêté, vous êtes incité à trahir le premier, histoire de ne pas vous faire arrêter, justement. Donc, quand un État décide de mettre en place ce type de programme, ça donne lieu à des scènes extrêmement intéressantes.
Donc, je me souviens, il y a peut-être une dizaine d'années, quand l'Espagne avait mis en place son programme de clémence, cela avait donné lieu à plusieurs jours avant le début de ce programme de clémence, ça avait donné lieu déjà à une petite file d'attente devant l'autorité, où les cabinets d'avocats qui représentaient un certain nombre d'entreprises commençaient à faire la queue et se relayaient pendant plusieurs jours afin d'être sûrs d'être les premiers à déposer la demande de clémence et d'être là avant l'avocat de l'autre concurrent sur membre du cartel.
Dans le programme de clémence, le premier traître bénéficie de l'immunité. Les entreprises suivantes peuvent avoir des exonérations partielles en fonction de leur rang d'arrivée et du, je cite l'autorité, degré de valeur ajoutée des éléments de preuve fournis. Dans l'affaire des produits laitiers dont on a parlé plus haut, c'est Yoplait qui est allé voir l'autorité de la concurrence.
Et c'est le représentant du groupe qui a remis à l'autorité de la concurrence ce carnet secret qui relate dans le détail 12 réunions. Le 4 juillet 2007, par exemple, les groupes s'entendent sur les modalités suivantes. Une hausse des prix de 3% sur les desserts, de 4% sur les yaourts et de 5% sur les fromages frais et la crème fraîche.
Ce programme permet donc de mieux détecter les cartels, d'accélérer la collecte de preuves et, comme on le disait plus haut, de semer le doute dans tous les cartels existants ou futurs. Le message est clair, la menace peut venir de l'intérieur. Enfin, il faut prendre des sanctions, qui doivent être suffisamment dissuasives pour que les entreprises ne recommencent pas. De ce point de vue, il y a une différence importante entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, comme l'explique Mathieu Rollange.
Alors, il est clair que c'était aux États-Unis et en Europe que les clients risquaient les plus fortes sanctions. Mais bon, malgré tout, il fallait prendre l'ensemble de ces enquêtes en considération. Aux États-Unis, les sanctions sont triples, alors qu'en Europe, c'est encore un petit peu moins le cas. Je m'explique. Aux États-Unis, il y a le volet pénal, une impossible incarcération des personnes qui ont mis en place le cartel. Il y a d'éventuelles amendes prononcées par la Cour après recours des autorités de concurrence. Et il y a une pratique très développée de ce qu'on appelle des actions en réparation, des actions en dommages d'intérêt qui font la plupart du temps suite à une enquête des autorités de la concurrence. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été lésées par le cartel peuvent aller demander réparation devant les tribunaux auprès des cartellistes. Et aux États-Unis, cet aspect financier est extrêmement important et dépasse en fait dépasse le montant des amendes qui sont prononcées par les autorités. Pour une raison assez simple, qui est qu'aux États-Unis, on est la plupart du temps sur un régime de ce qu'on appelle les triple damages, c'est-à-dire que pour chaque dollar payé en trop à cause du cartel, la réparation va pouvoir s'élever à 3 fois le montant, donc 3 dollars ici.
Ce que peuvent donc craindre les cartellistes aux États-Unis, ce sont des plaintes très nombreuses de clients qui ont été lésés, qui finiront par leur coûter très cher. Surtout qu'il y a des avocats spécialisés dans ce genre d'affaires et qui incitent les plaignants à aller jusqu'au bout sous la forme de class actions.
I believe that until proven guilty, every man, woman and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque.
Better call Saul.
On peut donc être condamné en tant que personne physique aux États-Unis pour avoir participé à un cartel. En Europe, ce sont les entreprises, c'est-à-dire des personnes morales, qui sont condamnées. De nos jours, pour éviter de se retrouver inquiété par la Commission européenne ou par le FBI, les grandes entreprises font elles-mêmes des enquêtes internes. Elles veillent à ce que leurs dirigeants ne soient pas tentés d'appeler leurs concurrents ou tout simplement de parler de leur structure de coûts dans une réunion entre plusieurs entreprises, par exemple. C'est déjà répréhensible. Alors, conclusion. Éviter la formation de cartels et faire en sorte qu'ils soient sanctionnés, c'est l'une des fonctions de régulation des marchés à la fois cruciale et méconnue. Et ça, l'ensemble des consommateurs en ont besoin. L'Union européenne et les États-Unis, pour ne prendre que ces deux exemples, ont une histoire très différente de ce point de vue. En Europe, on a construit des marchés communs en mettant en place des règles qui leur permettent de fonctionner à une échelle plus large. Ça a donné beaucoup de poids aux instances supranationales telles que la Commission européenne. Aux États-Unis, c'est la lutte contre les trusts à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui a été déterminante. Mais dans ces deux cas, les cartels sont l'un des éléments contre lesquels les pouvoirs publics luttent pour que les marchés fonctionnent de manière plus concurrentielle. Dans cet épisode, on a vu à quel point un marché libre et concurrentiel, ça ne va pas de soi. Et si l'on se donne cet objectif, il faut qu'il y ait des autorités qui surveillent non pas Pablo Escobar, mais les clubs de jardinage illicites. Splash est une émission écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite et montée par Marine Rowe, enregistrée et mixée à l'Arrière Boutique Studio, coordonnée par Mathilde Jeunin. Splash est une production Nouvelles Écoutes. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et les références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission. Envoyez-nous vos idées et vos questions sur nos réseaux sociaux, on est preneurs. À la semaine prochaine !